Europe 1, il est 22h. Le journal, Rémi Bossaron.
L'une de mes filles s'est faite vacciner. Et en ce sens, on peut dire qu'elle a participé à l'expérimentation.
La fierté de Vladimir Poutine alors qu'il annonce la mise au point par la Russie du premier vaccin contre le coronavirus, une annonce qui suscite un scepticisme certain dans la communauté scientifique. En France, l'épidémie évolue dans le mauvais sens. Ce sont les mots de Jean Castex, le Premier ministre, qui appelle notamment à la généralisation du port du masque obligatoire en extérieur, entre autres mesures nécessaires selon lui pour éviter une nouvelle vague épidémique.
Si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler.
L'épidémie et ses conséquences sur l'économie, le secteur de l'aérien est durement touché. Confirmation avec les chiffres de la fréquentation des aéroports français en juillet, la chute est spectaculaire. Deux jours après l'attaque dont ils ont été victimes au Mali, nous nous intéresserons au profil des six humanitaires français assassinés. La plupart étaient des jeunes, encore étudiants ou tout juste diplômés. Nous irons aussi au Liban où une semaine jour pour jour après l'explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth, les habitants se sont recueillis. Ce soir, ils sont toujours en colère. Et puis nous prendrons la direction de Lisbonne pour parler de football et de Ligue des Champions, le PSG. En quart de finale, c'est demain face à l'Atalanta Bergame. Et à la veille de ce match, les Parisiens sont sereins.
Je pense qu'on est, on est prêt pour jouer ce gros match. Et oui, avec la sérénité, avec l'enthousiasme, avec le courage.
La météo avec Marlène Duret, ce sera évidemment à la fin de ce journal avec deux mots-clés à retenir, je vous le dis déjà, chaleur et orage. Et puis vos deux rendez-vous du soir cet été, les conseils de lecture de Stéphane Place, évidemment, et la bonne idée de François Claus qui s'intéresse ce soir à des Toulousains qui offrent ses précieux des soins et des douches aux SDF et en particulier aux femmes SDF.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Il s'appelle V Sputnik, en référence évidemment au premier satellite soviétique envoyé dans l'espace. V Sputnik, c'est ce vaccin qui aurait été mis au point par la Russie, le premier vaccin contre le coronavirus. Vladimir Poutine en a fait l'annonce lui-même et il veut aller très vite. Elena Voloshine, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Moscou. La Russie affirme que les premières campagnes de vaccination pourraient débuter dès le mois de septembre.
Oui, le ministre russe de la Santé a annoncé que dès le mois de septembre seraient vaccinés en priorité les personnes les plus exposées, à savoir le personnel médical et les enseignants sur fond de rentrée scolaire. Une vaccination qui sera bénévole et non obligatoire, insiste de son côté Vladimir Poutine, qui se veut rassurant quant au fait que ce vaccin ne présente aucun danger. Écoutez le président russe.
L'une de mes filles s'est faite vacciner. Et en ce sens, on peut dire qu'elle a participé à l'expérimentation. Après la première injection, sa fièvre est montée à 38 et le lendemain, elle est redescendue à 37 et c'est tout.
Pas d'accord. L'association russe des organisations responsables des essais cliniques estime quant à elle qu'aucune donnée scientifique ne confirme à ce stade l'absence d'effets secondaires de ce vaccin, notamment chez les personnes immunodéficientes ou souffrant de maladies chroniques. La troisième phase d'essais cliniques, la plus importante, doit en effet encore avoir lieu avec des tests sur des milliers de bénévoles. Mais pour Vladimir Poutine, être le premier au monde à lancer un vaccin contre le coronavirus, c'était avant tout une affaire d'image.
Merci Elena Voloshine, correspondante d'Europe 1 à Moscou. On l'a entendu, une partie de la communauté scientifique russe prend ses distances déjà avec le triomphalisme de Vladimir Poutine. Et ailleurs dans le monde, le scepticisme est également bien sensible. L'OMS dit attendre des vérifications indépendantes et scientifiques. Pas convaincu non plus le docteur Alain Fischer, médecin immunologiste à l'hôpital Necker à Paris.
Elle est tout à fait surprenante et non scientifiquement fondée, donc non crédible.
Il y a trois premières lacunes, c'est qu'il n'y a aucune publication scientifique faisant état du développement de ce vaccin.
Donc là, on n'a aucune information de nature scientifique. On sait qu'ils ont probablement commencé quelques essais cliniques chez l'homme il y a peu de temps, mais ils n'ont pas franchi l'étape essentielle, qui est de faire un essai clinique sur un grand nombre de volontaires. Donc c'est un effet d'annonce politique.
Le fait de donner une forme d'autorisation officielle à un vaccin à ce stade, c'est juste un non-sens. C'est scientifiquement totalement non rigoureux.
Alain Fischer, interrogé par Victor Dolande, et du côté des autorités françaises, on se contente de rappeler par la voix du ministre de la Santé, Olivier Véran, que le pays est dans l'attente des grands laboratoires pour disposer d'un vaccin. La France, où l'épidémie n'évolue pas dans le bon sens, selon Jean Castex, près de 1400 nouvelles contaminations enregistrées en 24 heures, plus de 11 000 en une semaine, et le Premier ministre a décidé de hausser le ton aujourd'hui. En déplacement à Montpellier, il a appelé les Français à une réaction individuelle. individuelle et collective. Il a aussi fait de nouvelles recommandations. Adrien Beck, vous avez suivi ce déplacement. Il est question notamment d'une extension du port du masque obligatoire en extérieur.
Oui, Jean Castex va dès ce soir envoyer au préfet des instructions pour renforcer encore ce port du masque, obligatoire déjà dans 330 communes. Parmi d'autres annonces sur le dépistage, le Premier ministre évoque une file désormais dédiée pour les personnes présentant des symptômes. Et puis, le maintien de l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes. On va le dire, discours pas franchement rassurant de Jean Castex cet après-midi.
Évitez par-dessus tout un retour en arrière. Un reconfinement important, c'est indispensable. La prudence, ce n'est pas la peur. La vigilance, ce n'est pas arrêter d'agir. Mais nous devons être lucides et pour certains, je le dis, nous ressaisir.
Voilà un Premier ministre qui sonne donc l'alerte, qui répète dans son discours sa préoccupation, l'appel à la responsabilité. Le discours gouvernemental a très vite changé ces derniers jours, les moyens aussi. Jean Castex annonce des contrôles renforcés dans les bars, dont les horaires d'ouverture pourront être réduits. Bref, jusqu'ici, le gouvernement manie un peu la carotte et le bâton sur la prévention. Les temps ont visiblement changé.
Merci à Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et ce n'est pas vraiment une surprise, on sait que le secteur de l'aérien est durement touché par cette crise sanitaire et économique, mais les chiffres que l'on découvre aujourd'hui sont vertigineux. Ce sont ceux de la fréquentation des aéroports et du trafic aérien. Et Clément Le Saffre, on comprend en fait que les terminaux sont pratiquement déserts.
Oui, prenons l'exemple de Roissy-Charles de Gaulle. Selon les données du site Flightright, spécialiste des indemnités de retard dans l'aérien, le premier aéroport français n'a opéré que 10 600 vols en juillet contre 22 000 l'an dernier. Fréquentation divisée par deux donc, et c'est l'aéroport qui s'en sort le mieux. Ailleurs en France, c'est 60% de vols en moins à Marseille et 70% à Orly et Lyon, 75% à Bordeaux et à Toulouse-Blagnac. Rendez-vous compte, il y a à peine 30 vols par jour en ce moment. Tout ça est quand même assez logique. On voit bien que cet été, les Français privilégient les vacances en France, des trajets courts donc, qu'ils effectuent en priorité en voiture. Outre l'avion, le train connaît également des difficultés de remplissage et la situation du secteur aérien ne devrait s'améliorer que très très lentement. Augustin de Romanet, le patron d'Aéroports de Paris, estime que le trafic ne reviendra pas à la normale avant 2024, voire 2027.
Merci pour ces explications, Clément Le Saffre, donc du service économie d'Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit. Rémi Botsaron.
La France va renforcer la sécurité de ses ressortissants au Sahel, annonce d'Emmanuel Macron aujourd'hui à l'issue du Conseil de défense, alors que des enquêteurs français sont partis pour le Niger pour se joindre à l'enquête sur l'attaque terroriste dont ont été victimes les membres de l'association ACTED dimanche. Parmi eux, vous le savez, 6 jeunes humanitaires français. On va prendre le temps ce soir de s'intéresser à leur profil, à leur parcours. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
Alors d'abord, ces jeunes avaient un point commun, ça faisait peu de temps finalement qu'ils travaillaient pour ACTED.
Oui, quelques mois pour la plupart, comme Stella, 28 ans. Après des études de marketing, elle choisit finalement l'humanitaire, une expérience en Centrafrique pour Oxfam. Et puis elle rejoint ACTED cette année à Niamey. Tout comme Myriam, originaire de Toulouse, jeune trentenaire, diplômée de l'université Paris-Dauphine. Elle avait été envoyée au Niger par ACTED il y a quelques mois, comme nous le racontait sa cousine, interrogée par Jeanne Bergaoui.
C'était vraiment une personne généreuse et qui ne regardait pas son temps. Elle était toujours prête à l'aider. Elle était allée au Tchad au début de l'année et là, elle était repartie pour le Niger. C'est le caractère aussi qu'elle avait et qui fait qu'elle avait pris aussi cet engagement de travailler pour aller aider les plus démunis. C'était ce qu'elle voulait faire.
Antonin, jeune homme de 26 ans, était lui diplômé de l'École normale supérieure de Cachan. Il était chercheur en économie environnementale, en mission aussi au Niger pour ACTED. Et Nadifa, jeune trentenaire, préparait une thèse sur le commerce des armes. Élève très appliquée, nous a dit son professeur. Elle avait aussi travaillé au service financier du ministère des Armées.
Et aujourd'hui, Pauline, certaines universités ou grandes écoles dans lesquelles ces jeunes ont étudié ont salué leur mémoire.
Exactement, l'école de commerce de Rennes notamment, où Léo, l'un des plus jeunes du groupe, était encore étudiant. Spécialisé en logistique, il était volontaire pour ACTED. L'école a envoyé un communiqué de presse ce matin pour adresser ses condoléances notamment à la famille. Et puis l'université d'Aix-Marseille, sur sa page Twitter, qui a exprimé son émotion, son soutien aux proches et à la famille de Charline, 30 ans, qui était professeure et doctorante en gestion.
Merci Pauline Jacquot pour ces portraits donc des 6 jeunes humanitaires français tués au Niger. dimanche. L'élection présidentielle n'était ni libre ni équitable en Biélorussie. Jugement officiellement exprimé ce soir par l'Union européenne qui menace de sanctions après la réélection du dirigeant autoritaire Alexandre Loukachenko ce week-end. Aujourd'hui, la principale opposante au président Svetlana Tikhanovskaya a décidé de quitter le pays. Elle a trouvé refuge en Lituanie. Des milliers d'opposants ont été arrêtés par la police au cours de manifestations organisées depuis cette élection. Et pendant ce temps, à Hong Kong, c'est l'une des figures du mouvement pour la démocratie arrêtée hier qui a été remise en liberté aujourd'hui sous caution. Le mania de la presse Jimmy Lai faisait partie des 10 opposants interpellés au nom de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Aujourd'hui, son journal avait vu ses ventes bondir de 800%, signe du soutien d'une large part de la population de Hong Kong. Il y a une semaine, jour pour jour, Beyrouth était ravagée par l'explosion qui, selon le dernier bilan officiel, a fait 171 morts et plus de 6000 blessés. Et malgré la démission du gouvernement, la colère ne retombe pas parmi la population. Elle était encore bien sensible chez ceux qui se sont rassemblés pour une cérémonie d'hommage aux victimes ce soir. C'était peu après 18h, c'est important. Et Nicolas Feldman, vous y avez assisté.
Oui, 18h07, le chant du muezzin, les cloches résonnent dans les haut-parleurs. C'est à ce moment précis mardi dernier que survient la première explosion. Une semaine plus tard, devant cette foule rassemblée face au port, le tableau est toujours apocalyptique. Un enchevêtrement de tôles, de gravats. Le nom des 171 victimes connues à ce jour est lu dans un micro. Certaines se trouvent encore sous les décombres. Naïef arrive de Tripoli à une centaine de kilomètres plus au nord.
On est là évidemment pour rendre hommage à leurs âmes. C'est un devoir d'être là, une semaine après leur mort. Un devoir religieux aussi, pour toutes les victimes de cette explosion.
7 jours après, Nadine, elle ne réalise toujours pas. Derrière nous, les immeubles en première ligne face au port sont éventrés. Les appartements sans vitres donnent aujourd'hui directement sur la mer.
C'est une semaine de folie, c'est une semaine de colère, c'est une semaine de... On est en train de marcher dans les rues, voir les immeubles qu'ils ont cassés. On est en train d'aider les gens, essayer d'aider les gens, parce que les gens ont tout perdu. Là, c'est Jean qui habitait là, c'est l'ami de mon fils qui habitait dans cet immeuble. Il est tout détruit. J'ai plein d'amis qui habitaient ici.
Et dans les haut-parleurs, les mots de la chanteuse libanaise Majida El Roumi, Beyrouth, lève-toi, tu renaîtras de tes cendres.
Nicolas Feldman, envoyé spécial d'Europe 1 à Beyrouth, au Liban. À l'île Maurice, alors que les eaux jadis paradisiaques et les massifs coralliens sont souillés depuis des jours par des hydrocarbures qui s'échappent d'un bateau échoué fin juillet, les autorités ont un espoir de limiter la catastrophe. Elles vont faire appel à des spécialistes d'une entreprise bretonne, Floc Dépollution, basée à Morlaix. Cette entreprise va envoyer du matériel de dépollution sur place et coordonner les opérations. Son patron, Jean-Pierre Von Balleghem.
On est mandaté pour coordonner et réaliser l'ensemble du nettoyage dû à cette pollution et à ce naufrage. C'est un état des lieux, mais en même temps, j'ai du matériel qui arrive après-demain, j'ai d'autres matériels qui arrivent samedi, dimanche, etc. À la fois des stockages, de confinement, de pompage, des EPI pour équiper les gens. Voilà. Bon, après, il va suivre le matériel de nettoyage, proprement dit, hein, du personnel en renfort qui arrive pour former les gens, pour les encadrer, hein, en dehors des deux experts qui sont avec moi aujourd'hui. Le maître mot, ça va être de dire, attendez, ne nous précipitons pas de panique, c'est pas la peine de partir dans tous les sens, de mettre en danger certaines personnes. On va monter graduellement, on va embaucher les gens, on va les équiper, et puis on va, je vous dis, fixer des priorités.
Jean-Pierre Von Balleghem, donc le patron de cette entreprise Floc Dépollution, il était au micro de Capucine Rouault. Le football est un moment très attendu par les fans de football. Évidemment, le retour demain de la Ligue des Champions. Ce sont évidemment les supporters parisiens qui l'attendent avec le plus d'impatience, puisque le PSG disputera à Lisbonne le premier quart de finale face à l'Atalanta Bergame. Alors, dans quel état d'esprit sont les joueurs du club de la capitale à quelques heures de ce match décisif? La réponse du capitaine Marquinhos.
Bon, je pense que le groupe il se prépare de la meilleure façon possible, avec la motivation, avec l'enthousiasme. On a fait des bons entraînements à Paris, on a fait des matchs aussi importants qui nous ont préparés pour ce match important de demain. Je pense qu'on est là dans les meilleures conditions, même avec tout le contexte qu'il y a pour demain. Je pense qu'on est prêt pour faire pour jouer ce gros match. Et oui, avec la sérénité, avec l'enthousiasme, avec le courage, on va mettre tous les ingrédients qu'il faut pour faire un bon match demain.
Marquinhos, le capitaine du PSG, au micro de Julien Froment, envoyé spécial d'Europe 1 au Portugal. Et Julien Froment qui commentera ce match pour Europe 1 demain. Grande soirée Ligue des Champions à partir de 20h à suivre avec Lionel Rosso. Et puis le cyclisme professionnel s'adapte lui aussi avec son protocole sanitaire à cette pandémie de Covid-19. Sur les routes du Dauphiné libéré qui s'élance demain de Clermont-Ferrand, le port du masque sera obligatoire pour les spectateurs. Décision prise par les préfectures à la demande d'ASO, l'organisateur qui est également l'organisateur du Tour de France, qui doit lui débuter dans 2 semaines et demie. La météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Marlène Duret, on l'a bien senti à Paris aujourd'hui, le temps est à l'orage et la tendance va se renforcer demain.
Oui Rémi, la journée va commencer sous les nuages sur la façade ouest avec des averses orageuses par endroits. Ensuite, de gros orages se mettront en place dans l'après-midi. On les attend de la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie. Puis ensuite, ils vont gagner la région parisienne et la frontière belge. Alors plutôt en seconde partie d'après-midi ou en soirée, en s'accompagnant probablement de fortes rafales de vent et peut-être aussi de grêle. Dans le nord-est, quelques orages de chaleur, rien à voir avec la dégradation. Et puis de la vallée du Rhône à la Provence, là le temps restera sec. Avec un ciel variable ou voilé, quelques nuages bas aussi près du golfe du Lion. Les températures minimales vont rester quand même élevées, avec 17 à 22 degrés en général. Quant aux maximales, eh bien elles atteindront 21 à 28 en Bretagne et le long de la côte atlantique. Notez par exemple 21 à Ouessant et 28 à Royan. Ailleurs, eh bien comptez 33 degrés à Marseille, 34 à Toulouse, Belfort et Avignon, 35 à Lille ainsi qu'à Strasbourg, 36 à Paris, Dijon, 37 à Lyon toujours. L'alerte à la canicule est d'ailleurs maintenue dans 66 départements.
Et on s'y prépare. Merci Marlène Duret. Europe 1. Dans un instant, un livre pour l'été avec Stéphane Place, son conseil de lecture en association évidemment avec la librairie Mola à Bordeaux. A tout de suite sur Europe 1.
Rémi Botsaron sur Europe 1.
22h17, passé de quelques secondes sur Europe 1, et c'est l'heure de retrouver le livre pour l'été conseillé, comme tous les soirs, par Stéphane Place. Vous avez de quoi remplir une bibliothèque entière avec lui et la librairie Mola à Bordeaux, qui s'associe à lui. Ce soir, on sort des romans et on plonge dans des cartes et dans l'histoire. Ça fait toujours plaisir. Stéphane Place nous parle de l'Atlas historique mondial.
Oui, alors le simple terme d'atlas peut réveiller des souvenirs plus ou moins bons de notre scolarité. Nous avons tous planché un jour sur des cartes en s'efforçant surtout de les mémoriser pour l'interro écrite que l'on affrontait crayon de couleur en main. L'atlas dont nous vous parlons aujourd'hui rassemble lui 515 cartes avec à la clé une promesse, une ambition tout à fait originale, nous raconter l'histoire de l'humanité, la marche du monde, des origines à aujourd'hui. Une invitation au voyage dans le temps même, d'un simple coup d'œil, un atlas historique mondial que vous recommande Jean-Baptiste Garros, libraire chez Mola.
Ce n'est pas le premier atlas historique qui existe. En revanche, celui-là a la grande particularité et la grande qualité de donner une véritable place à la carte plus qu'au texte. C'est un travail de titan. Ce sont surtout des cartes qui sont connectées entre elles. Par exemple, s'il traite des guerres puniques, il y a un passage qui est consacré à cette période-là. On n'aura pas uniquement une carte de la Méditerranée occidentale qui présentera Rome et Carthage. L'événement, la période sera remise en contexte puisqu'on pourra observer l'ensemble du bassin méditerranéen et également cette Méditerranée orientale, cette Méditerranée qui, quelques décennies avant, sortait des grandes conquêtes d'Alexandre. C'est une véritable recontextualisation. C'est un atlas qui a la particularité, la force d'être à la fois un outil de travail indispensable par la richesse de son contenu et c'est à la fois un livre très ludique qui permet à un amateur d'histoire de se plonger dans l'histoire de ce monde à travers les cartes.
Et c'est le plus historien des géographes, Christian Grataloup, qui a sélectionné et commenté ces 500 15 cartes.
Les doubles pages sont entièrement utilisées pour souvent de très grandes cartes. Les textes sont très courts, à la différence de beaucoup d'atlas historiques qui sont bavards. Et là, au contraire, c'est d'abord la carte. Et on a aussi des cadrages décalés. Par exemple, de voir le carrefour proche-oriental au début de notre ère, avec la Méditerranée orientale jusqu'à l'Inde. Ce qu'on voit au milieu, c'est Palmyre, c'est Petra, c'est le Yémen, ce sont les intermédiaires. Et ce ne sont pas uniquement centrés sur les grands empires. Dès la deuxième partie, passé la diffusion du genre humain dans la première partie, on a les Inuits, les peuples du sud de l'Afrique, les Khoisan, le peuplement du Pacifique, par exemple. Ce genre de choses qui est souvent oublié.
Mais que l'on ne s'imagine pas tenir là un de ces atlas hautains. Il s'agit tout au contraire de faire image d'une histoire attentive aux accidents de terrain, aux scrupules des hommes ou aux hésitations des événements. C'est ce qu'écrit l'historien Patrick Boucheron qui signe l'introduction de cet atlas historique mondial.
Merci Stéphane Place pour ce nouveau conseil de lecture et l'autre rendez-vous estival immanquable sur Europe 1. Vous le savez, tous les soirs, c'est la bonne idée avec François Claus qui nous révèle une idée généreuse qui émerge en France face à la crise sanitaire et économique. Aujourd'hui, c'est une initiative en faveur des sans-abri à Toulouse. Ça s'appelle le camion douche. Il s'agit de proposer des douches donc et des soins hygiéniques, en particulier aux femmes SDF. Bonsoir Jérôme Brière.
Bonsoir.
On voulait vous rendre notre coup de chapeau du soir et vous féliciter pour cette belle initiative dans la ville de Toulouse et qui prend une dimension évidemment toute particulière avec l'épisode caniculaire qu'on vit en ce moment. Vous proposez donc deux camions, désormais deux camping-cars qui se promènent dans la ville pour apporter les soins hygiéniques et proposer des douches à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un logement.
Oui, merci, c'est gentil de nous recevoir. Oui, effectivement, depuis 2015, nous distribuons des douches et des produits d'hygiène sur la ville de Toulouse pour les grands précaires, les gens en situation de grande difficulté sur la rue. Aujourd'hui, la petite nouveauté, c'est que le deuxième camion, il est uniquement pour les femmes. Voilà.
On sait que les gens qui vivent dans la rue sont majoritairement des hommes, 80% environ, mais il y a, ça veut dire 20% de femmes. Aujourd'hui, parmi ces SDF qui vivent dans un état de grande précarité, et les soins d'hygiène sont quelque chose de presque aussi fondamental que la nourriture.
C'est exactement ça. Nous, par rapport à notre retour d'expérience sur 5 ans de rue, on n'arrive pas à atteindre les femmes de la rue par rapport à notre dispositif, parce que les hommes sont très présents, toujours plus présents. Au début, on avait à peu près 20% de femmes qui profitaient de notre dispositif mobile. Aujourd'hui, sur 12-13 douches, on est à une femme, donc on est plus un peu moins sur les 10%. Par rapport à cette réflexion, on s'est dit il va être urgent en fait d'avoir un dispositif mobile que pour les femmes. Voilà, pour qu'elles se sentent en sécurité. Et bon, effectivement, nous on était partis sur une association mixte et puis on est bien sûr sur les idées de l'égalité femmes-hommes, mais là, sur l'urgence, il faut quand même un dispositif uniquement pour les femmes, pour qu'elles se sentent à l'aise.
Et c'est déjà difficile parfois de les convaincre de participer à ces opérations. On peut signaler que vous avez accueilli à peu près 1000 personnes, plus de 500 douches, 700 kits d'hygiène, des changes complets que vous adressez via votre association à ces personnels particulièrement fragiles. Et en cette période de canicule, je voulais insister, Jérôme Brière, on parle souvent des sans-abri quand c'est l'hiver, quand il fait moins 10, moins 20. Et pour avoir fait des reportages dans ce monde, on ne le dit pas suffisamment, mais l'été et les grosses chaleurs, c'est parfois encore plus dur que l'hiver et les grands froids.
Exactement, la rue, c'est très difficile à toutes les saisons. Et sur des périodes de grosse chaleur comme ça, et même toute l'année d'ailleurs, il y a des structures qui fonctionnent, des structures fixes qui fonctionnent la semaine, mais qui ne fonctionnent pas le week-end. Et du coup, en ce moment, pour les femmes, on fait des actions Place Lange en face de l'entrée de l'hôpital Lagrave. Parce que la semaine, si vous voulez, à l'hôpital Lagrave, il y a la Croix-Rouge qui distribue des douches avec une structure de douche, mais qui sont ouvertes que la semaine. Donc, du coup, le week-end, les gens de la rue, en particulièrement les femmes, se retrouvent assez démunis pour avoir accès à l'hygiène. Et comme vous dites aussi, sur des périodes très chaudes où il n'y a aucun point ou aucun moyen de pouvoir se doucher, se rafraîchir un peu et puis avoir une hygiène un peu plus régulière.
Et apprendre peut-être ensuite à se reconstruire. Un grand merci à vous, Jérôme Brière. On voulait saluer cette bonne idée.
Je voulais juste passer un petit message rapide. C'est comme c'est un nouveau dispositif, et ben nous aurons besoin quand même de bénévoles femmes, parce que ce sera des femmes qui distribueront des douches, des produits d'hygiène aux femmes.
Pour venir s'occuper de ce camion dédié aux femmes, Place Lange notamment, dans la Ville Rose. Donc si vous êtes bénévole, si vous avez du temps cet été, que vous voulez le consacrer aux autres, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec Jérôme Brière, président de l'association Le Camion Douche. Vous allez trouver, vous pianotez un peu sur Internet et vous trouverez tout. Merci à vous d'avoir été ce soir l'acteur de cette belle idée. La belle idée, effectivement, en faveur des femmes SDF dont on parle trop peu. C'était avec François Claus, qu'on retrouvera évidemment, non pas demain soir, mais après-demain soir et jusqu'à la fin de la semaine, comme tous les soirs sur Europe 1. Dans un instant, on jettera un œil sur les unes de la presse, évidemment, mais d'abord, évidemment, comme tous les soirs aussi, un peu de musique. Tout de suite, c'est « J'ai compté », chanson de Pascal Obispo. Quelles sont ces unes qui vous attendent dans votre kiosque demain? Je peux déjà vous le dévoiler comme tous les soirs. Exceptionnellement, je vais commencer par parler de quelque chose qui ne sera pas en une des journaux puisqu'ils ont déjà bouclé leur édition, mais on l'apprend il y a quelques minutes, c'est important. Joe Biden, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, à la présidentielle américaine, a choisi sa colistière et c'est la sénatrice noire Kamala Harris qui a été choisie. Choix stratégiquement, symboliquement très important. On y reviendra évidemment dans les prochaines éditions d'informations sur Europe 1. Mais donc demain, ce qui vous attend, c'est d'abord la une de l'Humanité. Était très belle sur le Liban. Le veto de la rue avec la photo de ces Libanais réunis ce soir. Vous avez entendu le reportage de Nicolas Feldman pour Europe 1 sur le port de Beyrouth. On était une semaine jour pour jour après l'explosion dévastatrice dans le port de Beyrouth. Et ils sont toujours en colère, ces gens rassemblés dans la capitale, dans les rues de la capitale ce soir. Libération. Avec la photo de Poutine, photo trafiquée évidemment, on voit Poutine en costard blazer comme un James Bond et qui tient une seringue comme James Bond tenait son arme, le Walter PPK. Le fameux Poutine avec cette seringue parce que Libération titre sur le vaccin anti-Covid, demain ne meurt jamais, évidemment allusion au titre de ce James Bond, Libération qui parle de ce vaccin qui aurait été mis en place par la Russie, mis au point, alors que bon, il le souligne aussi, ce vaccin n'a pas encore passé la phase finale de tests. Et puis du football en une de Libération, de Figaro pardon, le PSG plein d'espoir à l'heure du tour final de la Ligue des Champions, on voit Neymar en une du Figaro qui espère effectivement renverser l'Atalanta Bergame en quart de finale demain à Lisbonne. Est-ce que ce serait la bonne année pour le PSG? Se pose la question en une aujourd'hui en France, alors que je vous le dis en un mot, il y a deux journaux qui s'intéressent à un autre drame actuellement pour la France, c'est la canicule et la sécheresse. C'est la Croix, la sécheresse, s'adapter ou subir pour les agriculteurs qui doivent envisager leurs pratiques sur le long terme et la France à sec. Titre, le Dauphiné libéré. 22h30, passé de quelques secondes sur Europe 1 et tout de suite, vous retrouvez évidemment la Libre Antenne avec Sabine Marin. Bonsoir.
Bonsoir Rémi.
Comment allez-vous?
Très bien, merci. À tout à l'heure, 23h pour les prochaines infos.